en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier honoraire, très estimés membres et correspondants de l'Académie, Mesdames et Messieurs, ce n'est évidemment pas une leçon d'histoire que je me permettrai de présenter devant un auditoire qui comporte tant d'historiens qui ont publié des ouvrages décisifs sur les sujets que je ne vais qu'effleurer. Je ne suis qu'un modeste historien des lettres et des idées. Ce que je vous soumets, c'est une réflexion sur un épisode très bref de l'histoire suisse et surtout sur là ou les traces qu'il a laissées dans la mémoire collective. Cet épisode est surtout l'image ou les images qui, depuis deux siècles, en sont transmises de génération en génération, permettent, je crois, de mieux comprendre, je ne dis pas d'approuver, la Suisse d'aujourd'hui. Et pour illustrer cette problématique, je me permettrai de commencer par une citation. Je la tire de l'Hebdo, ce magazine suisse fondé par Jacques Pilet en 1981 sur le modèle de l'Express et qui a connu un moment de notoriété internationale lorsque, dans les années 2005, il a publié son Bondi blog, avant hélas de disparaître en 2017. Donc l'Hebdo, le 22 janvier 1998, sous le titre « La tâche honteuse » publie ce qui suit. Le régime de Vichy et l'occupation allemande sont à la France ce que la République helvétique et l'occupation française ont été longtemps à la Suisse. Autant dire que les Suisses aussi pensent qu'il y a un passé qui ne passe pas. Mais soyons sérieux, les journalistes disent « ont été longtemps considérés », c'est dire que peut-être les choses sont en train de changer. Il n'empêche, même si les historiens ne s'autorisent pas des comparaisons aussi excessives, il n'empêche que l'image de la République helvétique, tout au long du XXe siècle et jusque dans les années 60, est extrêmement négative. Je vous donne trois exemples. Le grand historien conservateur bernois, Richard Feller, qui le dernier a osé écrire une histoire de la Suisse en deux volumes à lui tout seul, toutes les autres sont des ouvrages collectifs. L'historien Richard Feller, lorsqu'il parle de cette période, ne parle jamais que de l'invasion française, là où ses collègues français parlent de la campagne d'Helvétie. Son meilleur élève, l'historien Edgar Bonjour, qui a publié en 11 volumes une histoire de la neutralité suisse, dont les trois derniers volumes concernent la Deuxième Guerre mondiale, on y reviendra. Eh bien, ce grand historien de la neutralité, un proche de Jean-Baptiste Durosel, estime que la République helvétique est totalement contraire au caractère suisse, et le terme qu'il emploie, car il écrit en allemand, c'est « unschweizerisch ». Et un spécialiste reconnu, troisième exemple, de l'histoire constitutionnelle, Adolphe Gasser, pense que pendant ces années-là, la Suisse a fait fausse route, et fausse route est une traduction faible pour « irweg ». Des jugements qui, pour partie au moins, s'expliquent par la situation de leurs auteurs, très engagés dans ce qu'on appelait des années 30 aux années 60, la défense spirituelle, dont le but était de soutenir à l'époque des totalitarismes la communauté de destin national. Ce mouvement, évidemment, a disparu dans les années 70. Il a été passablement décrié. On a critiqué sa mise sous tutelle des consciences. On a même parlé de totalitarisme helvétique. Quant à l'article de l'Hebdo du 22 janvier 1998, il fait évidemment allusion à la célébration qui s'annonçait plus que discrète du bicentenaire de la déclaration de la République helvétique, une et indivisible, par Peter Hawks à Arrow, le 12 avril 1798. Une constitution calquée totalement sur la constitution de l'an 3 en France. Eh bien, les chambres fédérales, peu avant, avaient décidé de marquer sobrement, soulignons sobrement, ce bicentenaire de la République helvétique. Seuls les cantons de Bâle, les pays de Vaud ou l'Argovie avaient prévu quelques timides manifestations et le Conseil fédéral s'est contenté d'honorer de sa présence un dîner à Arras le 17 janvier 1998. Vous me direz que c'était déjà mieux qu'un siècle plus tôt, car au moment du premier centenaire de la République helvétique, aucune manifestation nationale n'avait été envisagée. Ce qui n'a pas empêché les anciens pays sujets, qu'on peut aussi appeler les cantons révolutionnaires, Vaud, ancien bailliage de Berne, Turgovie et le Tessin, ancien bailliage commun à l'ensemble des cantons, de célébrer leur accession à l'indépendance et au statut de canton de plein droit. Alors que les cantons qu'on appelle parfois résistants, Berne, Schwyz, Nidwald, là on se souvenait plutôt honteusement de la défaite militaire. Celle-ci vous est d'ailleurs rappelée si vous allez de Bâle à Berne par l'autoroute, par une colonne brisée à une trentaine de kilomètres de Berne, érigée en 1886 par la Société bernoise des officiers. En 1888, comme en 1918, beaucoup de Suisses auraient préféré commémorer d'autres dates. 1848, par exemple, où le peuple s'est donné par lui-même et non pas en recevant d'une puissance étrangère la première constitution fédérale. Ou 1648, année du traité de Westphalie, qui reconnaissait aux 13 cantons la pleine liberté et exemption du Saint-Empire romain germanique. Liberté et exemption qui furent aussitôt reconnues comme souveraineté internationale et par le roi de France et par l'empereur, bien que le texte ne stipule pas explicitement l'abolition du droit impérial, comme ce fut le cas dans le traité entre les Provinces unies et l'Espagne. Il est vrai qu'en matière de commémoration, la Suisse, elle aussi, éprouve depuis une trentaine d'années quelques difficultés. Ainsi, le 700e anniversaire de la Confédération, en 1991, avait donné lieu à une vilaine fronde de certains milieux intellectuels, sous le titre « 700 ans, ça suffit ». Qu'on en finisse avec la Suisse et que la partie alémanique devienne un land allemand, la Suisse romande une région française et le Tessin une partie de la Lombardie. Provocation périodiquement renouvelée par des intellectuels et des artistes en quête d'attention médiatique, comme Jean-Luc Godard par exemple, encore en mai 2014, dans un entretien avec le présentateur bien connu de la RTS, Darius Rochepin, et que vous pouvez consulter sur YouTube et qui continue à faire le tour des réseaux sociaux. Bien que ces déclarations restent marginales, elles traduisent néanmoins un certain malaise et montrent que les interrogations concernant l'identité nationale ne sont pas réservées à la seule France. Si les jugements négatifs, voire très négatifs, portés sur la République helvétique semblent de règle dans les 6 premières décennies du XXe siècle, il ne faut pas oublier néanmoins les appréciations positives portées sur cette période durant la deuxième moitié du XIXe siècle et notamment dans les années 1870-1890 émanant des milieux radicaux, c'est-à-dire ceux-là même qui, en 1874, avaient porté la première révision de la Constitution de 48 et qui tentaient à renforcer les compétences exécutives et législatives de l'État fédéral et qui essayaient de trouver des munitions, si je puis dire, dans l'histoire de la République helvétique. C'était aussi l'exposition, le moment de la première exposition nationale suisse, 83, de la création d'un musée national suisse, 90, d'une bibliothèque nationale, 94, quelques décennies après l'école polytechnique fédérale créée en 1854. Ce fut le constitutionnaliste bernois Karl Hilti qui, le premier, dans les années 1870, a fait cour sur la République helvétique, mettant en avant les acquis de celle-ci, à savoir l'abolition de toute forme de suggestion, l'égalité des cantons entre eux, l'égalité des citoyens devant la loi, la reconnaissance de trois langues comme langue nationale, la volonté de donner à l'État des bases constitutionnelles fondées sur le droit naturel, l'abolition de l'assolement triennal, le libre droit d'établissement, les efforts faits en matière d'éducation, la volonté d'avoir une politique extérieure commune et de se doter de moyens de défense adéquats. Bref, aux yeux de Hilti, la République helvétique, même si elle avait échoué, avait jeté dans presque tous les domaines les bases d'un État moderne, conforme à la philosophie des Lumières et fondée sur le droit naturel. Elle avait été en quelque sorte le laboratoire qui avait rendu possible la constitution d'un État fédéral en 1848. En même temps, l'expérience d'un centralisme outrancier et totalement contraire à la tradition helvétique aurait convaincu ceux parmi les Suisses qui ne l'étaient pas déjà à s'abstenir désormais de tout centralisme et à privilégier une organisation fédérale. Au fond, la République helvétique aurait vacciné les Suisses à tout jamais contre des accès de jacobinisme. En effet, les anticorps développés par la fièvre, contre la fièvre jacobine sont toujours actifs. Ils expliquent, pour partie au moins, les réticences de la Suisse d'aujourd'hui à l'égard de l'Europe. Tout abandon de souveraineté, à quelque niveau que ce soit, est par principe suspect. Tous les extrêmes lenteurs dans la mise en pratique de certaines politiques. Je prends un exemple tiré de l'histoire de la République helvétique. La politique culturelle. La République helvétique avait un ministre de la culture, Philippe Albert Stapfer, un unitaire modéré, ayant fait des études de théologie d'une part, de philosophie kantienne d'autre part. Il était ministre des arts et des sciences. Puis, il était ambassadeur sous la médiation de la Suisse à Paris. Il avait proposé, parmi beaucoup d'autres réformes, la création d'un bureau de la culture nationale, d'une bibliothèque et d'archives nationales, ainsi que de divers musées. Il est évident qu'aucune de ces propositions n'a connu ne fût-ce qu'un début de réalisation. Le mot même de culture ne figure ni dans la Constitution de 1848, ni dans celle de 1874. Le musée national à Zurich et la bibliothèque nationale à Berne ont mis à peu près un siècle à être créés. Et ce n'est que dans les années 1980 qu'une initiative en faveur de la culture au niveau fédéral fut lancée, exigeant un additif constitutionnel selon lequel 1% des dépenses de la Confédération devait être réservé à des actions culturelles. L'initiative fut rejetée une première fois en 1984, une deuxième fois 10 ans plus tard. Et ce ne fut que par le biais de la révision totale de la Constitution en 1999 qu'on a réussi à donner à la politique culturelle une base constitutionnelle et à la Confédération une compétence explicite en matière de soutien à la culture. Or, cet article culturel comporte deux titres. Premièrement, la culture est du ressort des cantons. Deuxièmement, éventuellement, la Confédération peut apporter une contributions. Non pas par elle-même, mais par le biais d'une fondation, pour Helvetia essentiellement, dont la fondation remonte à 1938, nous retrouvons l'époque de la défense spirituelle, mais dont les moyens, par la nouvelle loi fédérale, ont été considérablement augmentés. Nous sommes évidemment aux antipodes du modèle français. Je vous donne les chiffres de 2015 pour les dépenses culturelles de la Suisse. Au total, 2 883 millions de francs suisses qui se répartissent de la manière suivante. Les villes et les communes, 47,9%. Les cantons, 41,6%. La Confédération, 10,5%. À l'époque de Hilti, qui donc le premier voyait dans la République helvétique une espèce de matrice de la Suisse moderne, est né un projet tout à fait unique en son genre, c'est-à-dire la publication intégrale des archives de la République helvétique, qui sont d'une richesse, on pourrait presque dire, extravagante. Non seulement parce que la Constitution elle-même et les quatre coups d'État qui ont suivi les trois années qui ont succédé à la déclaration de cette Constitution ont donné lieu à des discussions sans fin, mais parce que les chambres ont fourni un travail législatif colossal, car légiférer était une sorte d'acte politique. Les chambres siégeaient pendant 2 ans quasiment en permanence, d'abord à Aarau, ensuite à Lucerne, ensuite à Berne, parce qu'on déménageait sans arrêt, comme à l'époque de la Diète. Un travail législatif qui, en général, n'a débouché sur aucune concrétisation, mais qui, selon une décision prise par les chambres, devait être faite par écrit. Toutes les propositions devaient être proposées par écrit et en plus devaient être traduites dans les trois langues nouvellement déclarées langues nationales. Ce qui fait que les archives de la République helvétique, publiées par l'archiviste de Zurich, Johannes Stricker, comportent une quinzaine de volumes de 1500 pages et la République helvétique devient ainsi la période la mieux documentée de toute l'histoire suisse, excepté l'époque de la fondation à la fin du XIIIe siècle. Dans un premier temps, cette richesse documentaire a donc permis de déterminer quels étaient les domaines dans l'éducation, la culture, la défense, le commerce, les transports, l'administration, où la République helvétique avait été en quelque sorte pionnière. Tant à la fin du XIXe siècle toutefois, au moment où l'Allemagne est devenue un empire, où on savait qu'on allait vers la guerre, cette période où la Suisse a été occupée militairement par la Suisse, où elle avait perdu toute indépendance, a perdu beaucoup de son attrait et de son intérêt. Ce qui explique les 6 décennies de méconnaissance et de mépris portés sur cette période. Et le regain de curiosité tout à fait récent n'est évidemment pas sans rapport avec la crise d'identité que traverse la Suisse depuis le milieu des années 1990. On se souvient de la sérieuse mise en cause de la neutralité helvétique durant la Seconde Guerre mondiale et de la déplorable affaire des avoirs juifs en déshérence. La première de ces problématiques a conduit à la formation de la commission Bergier, la seconde à celle de la commission Volcker. Les deux commissions ont rendu chacune un rapport qui n'est pas à la gloire de la Suisse, c'est le moins qu'on puisse dire. Or, les interrogations concernant l'identité suisse ont aussi suscité un ensemble de nouvelles recherches sur les origines de la Suisse et partant sur la République helvétique, une série série de colloques dans les années 90, à Berne, à Genève, à Solin, à Soleur, à Bâle, à Lucerne et ailleurs, et dont les actes ont été réunis en une demi-douzaine de volumes sous le double titre Dossier helvétique, Dossier helvétique, mais ce sont des travaux universitaires qui n'ont guère trouvé d'audience au-delà du milieu des universitaires. Il y a une seule manifestation qui a trouvé une audience un peu plus large, c'est la journée d'études consacrée en 2003 à l'événement qui a mis fin au cauchemar, c'est-à-dire à l'acte de la médiation. Et encore, ce fut une journée de travail qui s'est tenue en Sorbonne et non pas en Suisse. Et les interventions ont été publiées sous le titre « Quand Napoléon a recréé la Suisse », publié par la Société d'études robespierristes, comme si la Suisse voulait signifier qu'elle aussi a eu droit à la terreur. À vrai dire, la médiation qui court de 1803 à 13 n'est pas pour les Suisses une époque moins dérangeante dans la gestion de la culture mémorielle que la période précédente. Il s'agit encore d'une solution imposée par l'étranger. Certes, Napoléon a rétabli les cantons, mais en limitant fortement leur autonomie, en leur imposant une administration structurée verticalement. Nous lui devons certes la création de 6 cantons nouveaux, dont les cantons francophones, italophones et rétoromanches, ce qui donne à la Suisse son caractère original et plurilingue, et lui permettra d'affirmer sa différence à l'ère des nationalismes. Aussi, dans ces cantons nouveaux, le souvenir n'est évidemment pas le même que dans les cantons anciens comme Berne et Bâle. Et il fallait être valaisan, comme Pascal Couchepin, en 2003 président de la Confédération, pour prononcer du haut de la tribune du Sénat un vibrant éloge de Napoléon. L'amour des grands hommes n'est pas la passion la mieux partagée par les Suisses, et ceci depuis fort longtemps. Ainsi, devant Morat, à la veille de la bataille qui a défait le Téméraire, en 1476, ce n'est que quelques heures avant le début de la bataille que les contingents des différents cantons ont appelé à la rescousse par Berne, ont élu leur commandant en chef, tant fut grande la crainte de l'émergence d'un homme fort. Quant à la Suisse moderne, je vous renvoie à la correspondance entre Tocqueville et le jeune Gobineau. La Suisse y ressemble plutôt à une médiocratie qu'à une démocratie. Bien que certains historiens reviennent à l'attitude de Hilty et de Stricker, estime que la République helvétique avait été une sorte de laboratoire de la Suisse moderne, il n'est pas sûr que nous assistions vraiment à une réhabilitation d'une période qui restera maudite pour beaucoup, et la citation par laquelle j'ai commencé tenterait à l'indiquer. Et ce n'est en effet pas demain que sera suivi d'un début de réalisation la proposition de Marcus Couto, publicitaire assez connu, historien de formation et ayant siégé dans les années 90 sur les bancs de la droite au Grand Conseil de la ville de Bâle, et qui voulait régénérer la Suisse par un renouvellement de son personnel mythologique. Et il a publié un petit livre pour dire « Il faut en finir avec Guillaume Tell, il faut mettre à sa place Peter Ox, l'artisan de la Suisse moderne. » Et il a fondé à cet effet une société Peter Ox, dont un des buts était de publier les œuvres complètes de son grand homme. Entreprise colossale, quand on pense que Ox n'a pas seulement laissé des ouvrages d'histoire et des écrits politiques, mais aussi des pièces de théâtre, des livrets d'opéra, des poésies, sans parler d'une très volumineuse correspondance. Autant dire que de cette belle entreprise, on attend toujours la publication du premier volume. La proposition ne manque d'ailleurs pas de sel venant d'un Balois, quand on sait que les enfants de Peter Hawks avaient demandé et obtenu de reprendre le nom de leur arrière-grand-père Edward Hiss pour échapper à la vindicte générale, tant était détesté le nom de l'auteur du livre infernal, tel qu'on appelait la Constitution helvétique. Le nom de Hawks comme patronyme a donc disparu. Il n'existe plus que certaines parties de son héritage. Sans doute, la République helvétique ne mérite pas ni cet excès d'indignité, ni une admiration exagérée. Je crois qu'il s'agit d'un moment exceptionnel dans l'histoire suisse, pendant lequel la Suisse a été confrontée à son contraire. Ce n'est pas une parenthèse, c'est plutôt une catalyse qui a précipité au sens chimique du terme, pourrait-on dire, certains traits du fédéralisme helvétique. Une époque climatérique qui a mis la Suisse en face d'elle-même, lui faisant prendre conscience, au prix d'une guerre civile, de ce qu'elle était, de ce qu'elle pouvait être, de ce qu'elle ne voulait pas être. Et si le souvenir de cette période suscite toujours autant de réactions passionnées, c'est que le traumatisme qu'elle a provoqué a été très profond. Et pour l'expliquer, je voudrais montrer que ce traumatisme a été provoqué par la mise en cause simultanée et radicale des trois principaux éléments qui définissent l'identité suisse, je veux dire la neutralité, le refus du centralisme et l'autonomie communale. Et en replaçant ces trois éléments dans la longue durée, travail pour lequel le dictionnaire historique de la Suisse, dont les 36 000 articles sont en ligne depuis quelques années, m'a été extrêmement utile. Et en replaçant donc ces trois éléments dans la longue durée, on pourrait montrer que l'expérience de la République helvétique constitue non seulement la rupture la plus importante dans l'histoire de la Suisse, mais que par sa radicalité, elle a également cristallisé certains blocages qui figent la Suisse jusqu'aujourd'hui. Cela a été d'un certain sens à la fois la matrice de la Suisse moderne, et on pourrait aussi inverser le point de vue et dire cela a bloqué la Suisse par la réaction contre le jacobinisme en partie pour deux siècles. Le premier choc qu'a subi le corps helvétique, car tel était le terme qu'on utilisait à l'époque, le premier choc de ce corps helvétique a donc été la perte de la neutralité. Corps helvétique qui désigne dans les textes anciens cet ensemble bigarré de démocratie, d'aristocratie, de monarchie, de régions assujetties selon tous les degrés de dépendance, maintenues par un système complexe et hétérogène de pactes et d'alliances. Le plus petit dénominateur commun de cet ensemble hétéroclite était la neutralité des parties les unes envers les autres et de l'ensemble à l'égard de tiers. Et ce plus petit dénominateur commun tenait en quelque sorte lieu d'identité. Et les Suisses ne s'en sont rendus compte qu'aux époques où cette neutralité a été violée. Ils avaient quitté la scène internationale après Marignan, et les occasions de se défendre étaient devenues rares, si je puis dire, et ce n'est que à la suite des incidents qui avaient émaillé la guerre de 30 ans, que les cantons protestants d'un côté, catholiques de l'autre, ayant chacun leurs alliances respectives, se sont rapprochés afin de faire reconnaître leur neutralité commune par les puissances étrangères. Et c'est par le Défessionnal de Ville, en 1647, que fut réglé pour la première fois, et on a énuméré les cantons et le nombre d'hommes qu'ils devaient fournir et l'armement, qu'on a réglé pour la première fois la levée de troupes au service de tous et l'organisation de celles-ci. Deuxième épisode, après l'occupation de la Franche-Comté par la France. Désormais, la France et la Suisse avaient une frontière commune. Défensionale de Bade. Première législation véritablement nationale en matière militaire, qui n'est restée en vigueur que très peu d'années. Les cantons catholiques, à l'exception de Berne, y renoncèrent pour des raisons confessionnelles. Il fut néanmoins juré, pour la première et pour la dernière fois, par l'ensemble des cantons, en réponse à la prise de Porrentruy par les Français en 1792. Et il constituera ce défensionnal de Bade de 1673. Il constituera encore la base du règlement militaire fédéral en 1817, puis en 1848, puis en 1874. L'affirmation de la neutralité tient donc bien lieu d'identité nationale, même s'il aura fallu 2 siècles pour passer des milices cantonales à une armée fédérale. Malgré la sérieuse mise en cause de la neutralité au moment de la première coalition, la Diète, en réaffirmant le principe même de cette neutralité, avait fait passer les intérêts du pays avant les convictions de leurs dirigeants. Ceux-ci avaient été invités par la Prusse et la Sardaigne à rejoindre la coalition. Au nom des cantons, Lavoyer von Steiger de Berne, ennemi juré de la Révolution, déclina. Le grand cri à Frauenfeld, écrit l'ambassadeur Maraval à son souverain, le roi de Prusse, le grand cri à Frauenfeld et dans tous les conseils de la Suisse, c'est la neutralité. Côté français, le nouvel ambassadeur, François de Barthélemy, qui ne s'était pas installé à Soleure comme tous ses prédécesseurs, la ville abritant trop d'émigrés, mais à Bade, signale que la France non seulement respectera la neutralité, mais qu'elle désire également renouveler les traités concernant les troupes suisses, ces alliances que les rois de France avaient désignées comme les plus beaux joyaux de leur couronne, ajoutant bien entendu que, comme par le passé, on ne ferait pas jouer à ces troupes de rôle offensif. Ces alliances constituent d'ailleurs un des socles de la diplomatie helvétique, de la paix perpétuelle de 1516 jusqu'au traité d'alliance défensive conclu avec le premier consul le 27 septembre 1803, 6 mois après que celui-ci eut rétabli l'ordre. Et ce dernier traité renvoie d'ailleurs explicitement à la paix perpétuelle de 1516. Cette neutralité, comme vous le voyez, n'est pas née d'une décision soudaine. Elle s'est dégagée peu à peu de la pénombre du droit des gens, dans un contexte mêlant des motifs de politique intérieure et extérieure. D'ailleurs, au sein même de la Confédération, à partir de la fin du XVe siècle, les nouveaux membres étaient tenus de servir de pacificateurs et de médiateurs neutres entre les cantons en cas de conflit. Il y a donc une sorte de neutralité intérieure. Sur le plan extérieur, bien entendu, Marignan a signifié la fin de la politique d'expansion des confédérations, mais ce n'est que près de 150 ans plus tard que la première déclaration officielle de neutralité avait été émise par la Diète. On pourrait évidemment s'attarder sur les définitions même de la neutralité Sous l'Ancien Régime, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'après le congrès de Vienne, mais anciennement, la base juridique pour les Suisses, c'est bien entendu le droit de la guerre et de la paix de Grotius. C'est le livre qui a fait autorité. Et il contient un certain nombre de passages très importants pour les Suisses. Par exemple, premièrement, le droit de passage que les neutres doivent accorder aux troupes des belligérants. Ensuite, le droit international, selon Grotius, accordait aux neutres la conclusion d'alliances défensives. Alliance défensive que la Suisse avait conclue non seulement avec la France, mais aussi avec l'Autriche, la Savoie, l'Espagne. Il en est résulté un système soumis à des intérêts souvent contradictoires, provoquant une certaine paralysie qui n'est pas étrangère à la chute de l'Ancien Régime. Troisièmement, les neutres ont le droit de mettre à disposition des troupes mercenaires et même peuvent autoriser que l'on recrute sur leur territoire. Une pratique sévèrement critiquée par les réformateurs protestants depuis Zwingli. Mais les pensions versées constituaient une source de revenus trop importante pour que l'on voulût y renoncer. Et comme le notait l'ambassadeur de la Savoie en 1703, au moment de la guerre de succession d'Espagne, les Suisses vendent aux plus offrants et aux derniers enchérisseurs, n'ayant aucun profit plus assuré que celui qu'ils font de la vente de la chair humaine. Fermez les guillemets. Dernier point mentionné par Grotius, le commerce avec les belligérants. Les neutres ne devaient rien faire pour affaiblir le camp de la cause juste ou favoriser le camp de la cause injuste. Dans le doute, ils devaient favoriser également les deux parties. Eh bien, ce n'est pas par hasard que c'est un Neuchâtelois qui, au milieu du XVIIIe siècle, Aimer de Vatel, a théorisé le droit des neutres de commercer librement avec les belligérants, ce que les Suisses ne se sont pas privés de faire en 1792. On sait notamment que les Balois firent d'excellentes affaires en fournissant à la fois les Français et les impériaux en chevaux, bétail, étoffes, denrées alimentaires, voire armes et munitions. L'Ancien Régime en Suisse ne s'est pas effondré du jour au lendemain au moment de l'invasion française au début de 1798. Même si dans les témoignages des contemporains, c'est l'effet de sidération qui prévaut. Dès le début des années 90, des troubles avaient éclaté, à l'instar de ces nombreux soulèvements de paysans réclamant des droits de participation à la vie politique. Et ces troubles avaient éclaté notamment en Bas-Valais, pays sujet du Haut-Valais, mais aussi dans l'évêché de Bâle ou alors dans le canton de Vaud. Les événements dans l'évêché de Bâle en 91-92 préfigurent d'ailleurs comme en miniature ce qui allait arriver à la Suisse. La structure était encore plus complexe que celle des cantons helvétiques liés par un système extraordinairement compliqué et toujours mouvant d'alliances durables et de conventions à court terme avec les voisins et les principales puissances européennes. Le prince-évêque, prince du Saint-Empire, était investi à la fois d'un pouvoir temporel et d'un pouvoir spirituel. Mais les deux juridictions ne se recoupaient pas géographiquement. Il avait été chassé de Bâle par la Réforme. Il résidait à Porrentruy. Mais son collège électoral de 18 chanoines résidait à Arlesheim, c'est-à-dire à un quart d'heure de Bâle. L'évêché était lui-même divisé en 17 bailliages ou seigneuries qui formaient autant de circonscriptions politiques, administratives et judiciaires. Certaines étaient sous protectorat bernois, d'autres en combourgeoisie avec Solaire. Celles du Sud étaient considérées comme suisses et bénéficiaient de la neutralité suisse. Celles du Nord étaient terres d'empire. Mais l'évêque, ayant signé une alliance avec la France, a fourni à celle-ci un régiment, qui s'est d'ailleurs illustré à Corbach et lors de la campagne de Corse. Par ailleurs, un traité de défense mutuelle assure à l'évêque la protection de la France. Donc, lorsque ces sujets se soulèvent timidement, mais quand même de façon remarquée, excités par Joseph-Antoine Reinker, qui anciennement était au service du dit évêque et qui réclamait la convocation d'une assemblée des États, eh bien, il appelle la France à l'aide. Mais les Français refusent. Il appelle les Suisses à l'aide. Les Suisses n'y vont pas. Seul l'empereur envoie un petit contingent, ce qui par ricochet a incité la France à déclarer la guerre, je cite, au roi de Hongrie et de Bohême le 20 avril 1792 et d'occuper en toute légalité, vu le traité d'assistance, le nord de l'évêché de Bâle. Vous voyez donc la complication et le compartimentage de ces territoires. En mai 1792, la Diète réunie à Frauenfeld décide, en application du défensionnal de Baden, d'envoyer 1300 hommes afin de protéger la frontière de Bâle. Mais les cantons de la Suisse centrale renâclent. Certains refusent de mobiliser les contingents requis. La Diète décida également d'inclure la partie nord de l'évêché, ainsi que Neuchâtel et Genève, dans la neutralité. Mais la France refuse par Dumouriez, parce qu'il est conseillé par Ox, sous prétexte que l'évêché ne faisait pas partie de l'alliance des 13 cantons avec la France, signée en 1777, renouvelant celle de 1715, renouvelant celle de 1663. Vous voyez l'empilement des traités. Et ce petit exemple pour rappeler le morcellement extrême des territoires et justement l'empilement des dépendances qui caractérisent les régions suisses et leurs voisins immédiat. Les cartes de l'époque ressemblent à de véritables patchworks où se superposent et souvent se contredisent compétences territoriales, dépendances seigneuriales, droits de tous ordres. La plus petite unité peut proclamer son indépendance, ne fût-ce que pour un temps. Et les plus infimes détails de la vie quotidienne obéissent à des règles différentes d'une localité à l'autre. Pour vous faire rire, un petit détail de l'histoire bâloise, depuis le Moyen-Âge, les cloches de Bâle avaient une heure d'avance sur les cloches des villages voisins, ce qui donne régulièrement lieu à des discussions au Grand Conseil, pour le moins aussi vives que celles qui concernent actuellement notre heure d'été. Quant à l'existence de la Suisse des 13 cantons de leur pays sujet et de leur bailliage commun, elle n'était garantie que par l'équilibre des forces entre la France et l'Autriche, à condition que celle-ci respecte sa neutralité. Les choses, me direz-vous, ont dû se compliquer le 10 août 92. En effet, il y a eu entre 500 et 600 morts devant les Tuileries. Tous les régiments sont licenciés, on les renvoie sans solde. Rassurez-vous, elle a été réglée par quelques mois plus tard par le comité de salut public. Mais se pose alors au sein de la Diète la question d'une intervention suisse aux côtés de la coalition. Berne est pour, Bâle est contre. Ce sont les Bâlois qui l'emportent pour des raisons économiques que j'ai déjà invoquées. Et Barthélemy, qui représente la France jusqu'en 97, avant d'intégrer le directoire pour la dernière année de l'existence de celui-ci, a joué un rôle non négligeable dans cette affaire. Il écrit à Lebrun le 10 avril 93 « Ce n'est pas par la force que nous déterminerons les Suisses à la neutralité. Ils s'y tiennent par leur intérêt, par leur volonté. Nous pouvons les y fortifier encore par la confiance. » Au printemps de 93, la Prusse, l'Autriche et la Sardaigne avaient été rejoints par l'Angleterre, la Hollande, l'Espagne, Naples et le Saint-Empire. La France était coupée de ses approvisionnements. Eh bien, elle trouve en Suisse ce qui lui manque et achète, et la Suisse achète pour le revendre aux Français du bétail et des chevaux à l'Autriche, à l'Italie et jusque en Hongrie. On ne s'étonnera donc pas de la sortie de Chateaubriand dans l'essai sur les révolutions qui est de 97, neutre dans les grandes révolutions des États, les Suisses s'enrichirent des malheurs d'autrui et fondèrent une banque sur les calamités humaines. Inutile d'énumérer toutes les dates auxquelles la neutralité suisse a été réaffirmée ou confirmée. Rappelons simplement que le comité de salut public a plusieurs fois renouvelé son attachement aux anciennes alliances. Ainsi, en avril, puis de nouveau en septembre 93, avant... en ajoutant que maintenant on n'entretiendrait de relations amicales plus qu'avec deux puissances, l'Amérique et la Suisse. Ce qui a donné lieu à une envolée lyrique de Robespierre, le 27 Brumaire de l'an 2, dans son discours sur la situation politique de la République, où il a passé en revue les amis et les ennemis de la Suisse. Il est un autre peuple uni à notre cause. Et vous verrez, le texte est assez paradoxal. Il est un autre peuple uni à notre cause par des liens non moins puissants. Un peuple dont la gloire est d'avoir brisé les fers des mêmes tyrans qui nous ont fait la guerre. Un peuple dont l'alliance avec nos rois offrait quelque chose de bizarre, mais dont l'union avec la France républicaine est aussi naturelle qu'imposante. Un peuple enfin que les Français libres peuvent estimer. Je veux parler des Suisses. La politique de nos ennemis a jusqu'ici épuisé toutes les ressources pour les armer contre nous. L'imprudence, l'insouciance, la perfidie ont concouru à les seconder. Quelques violations de territoire, des chicanes inutiles et minutieuses, des injures gratuites insérées dans les journaux, une intrigue très active dont les principaux foyers sont Genève et le Mont Terrible, c'est-à-dire le Jura qui a été annexé au début de la Révolution, et certains comités ténébreux qui se tiennent à Paris, composés de banquiers, d'étrangers et d'intrigants couverts de masques de patriotisme, tout a été mis en usage pour les déterminer à grossir la ligue de nos ennemis. Eh bien, la ligue de nos ennemis n'a pas été grossie et la chute de Robespierre n'a pas entraîné de changement dans cette reconnaissance de la neutralité. Et les Suisses y croyaient, d'où le choc qu'ils ont subi après. Et Barthélemy, encore le 15 décembre 96, vante les avantages de la neutralité au directoire. Ce sont ses grands intérêts qui ont contenu jusqu'ici les puissances voisines de la Suisse et leur ont fait une obligation de respecter un territoire qu'aucune des deux ne violerait impunément. C'est aussi à cette balance exacte des avantages résultant de la conservation d'un territoire neutre, intermédiaire entre la France et l'Autriche, que le corps helvétique doit principalement son indépendance et son existence politique. Vous voyez donc, dans les années 90, et surtout entre 93 et 96, les relations franco-suisses étaient excellentes. La Suisse remplissait d'ailleurs parfaitement sa mission médiatrice, puisque c'est dans la maison de Peter Ox à Bâle que fut signée en avril 95 la paix de la première République française avec la Prusse et en juillet avec l'Espagne. Barthélemy ayant ailleurs été le négociateur pour la France. Et c'est ce même Ox qui, dans toute une série de publications à la même époque, pousse à la révolution et pousse aussi à faire promouvoir l'idée de transformer la Suisse en état satellite de la France. Cet Ox, qui a été élevé en France, d'abord
à Nantes. C'était une famille de commerçants suisses qui s'était installée là-bas. Puis, il était à Hambourg. Sa langue maternelle était le français. Sa deuxième langue était l'allemand. Il n'a jamais parlé un mot de dialecte balois, ce que ses adversaires, évidemment, n'ont pas manqué de lui reprocher, et ce qui n'est pas pour rien dans le qualificatif de Unschweizerisch qui a été appliqué à son projet de constitution. Cet axe, d'ailleurs, est régulièrement à Paris depuis les années 80, non seulement pour les affaires de la maison familiale, mais aussi en mission officieuse. Par exemple, pour faire entrer les dîmes et les cens qui ne rentraient plus après 89 des villages alsaciens qui étaient en possession baloise. Il connaît beaucoup de monde. Son beau-frère est le baron Dietrich, le premier maire de Strasbourg. C'est dans son salon que sera créée la Marseillaise, ce qui ne lui a pas évité l'échafaud, soit dit en passant. C'est avec le traité de Campoformi en octobre 97 que les choses changent. La France sort victorieuse de la première guerre, l'Autriche renonce au nord de l'Italie, cède les terres de la rive gauche du Rhin à l'Empire, et la République cisalpine absorbe les trois ligues des Grisons, pays alliés de la Suisse. Et on fait miroiter à la Suisse le Fricktal, qui est sur la rive gauche du Rhin, entre Bâle et Zurich. En Suisse, deux courants se sont formés, les partisans de la neutralité et ceux qui sont pour un rapprochement avec la coalition. Ils se combattent âprement dès que les Français, le sort des armes est favorable aux Français, les neutralistes se sont poussés des ailes, l'avantage est du côté des alliés, le parti des va-t-en-guerre se manifeste bruyamment. Le tout sur fond de divers mouvements fomentés par les émigrés qui étaient nombreux à Soleure, à Bâle et ailleurs, d'un côté, et par les Anglais à travers l'ambassadeur William Wickham de l'autre. « On ne se fait pas idée, écrit Barthélemy au comité de salut public, à quel point le ministre d'Angleterre en Suisse s'agite et prodigue l'or pour exciter des désordres sur nos frontières. » Entière. À quoi s'ajoutent différents petits soulèvements dans les campagnes vaudoises, zurichoises, baloises, souvent encouragées d'ailleurs par une partie des élites desdites villes. Que la paix entre la France et l'Autriche serait fatale à la Suisse, l'ambassadeur anglais le prédit dès le 15 octobre 97 à Lord Grenville. If peace with Austria will be concluded, this country is immediately gone. Il avait vu juste, c'était l'antagonisme entre la France et l'Autriche qui assurait l'indépendance de la Suisse, comme c'était l'antagonisme entre Berne et la Savoie qui assurait l'indépendance de Genève. À la fin de 1997, Wickham devait d'ailleurs quitter la Suisse. Joseph Mingo, qui venait de remplacer Barthélemy, avait obtenu son départ. Je vais vite sur ce qui suit. Vous connaissez les événements. Novembre 1997, sur le chemin de Rastatt, Bonaparte traverse la Suisse. L'accueil est plutôt mitigé. Il fait comprendre à certaines autorités cantonales qu'il faudrait peut-être envisager des changements. Il revoit Ox, qu'il connaît déjà de ses nombreux séjours à Paris, à Bâle, et l'idée d'une république satellite à l'image de la république batave fait son chemin à Paris. C'est un des directeurs rebelles, ancien député du district de Colmar, qui connaît bien la situation suisse, qui la défend ardemment, âprement, et Bonaparte convoque Ox à Paris sous prétexte de négocier le rattachement du Fricktal, terre d'empire, à la Suisse. Et Ox arrive à Paris avec déjà le projet d'une constitution qu'il a ébauchée, qui est moins centralisatrice que celle qui va être finalement dictée à Paris. Entre-temps, certains cantons ont fait leur révolution, et au moment où est déclarée la révolution helvétique, il n'y a plus aucun pays sujet déjà. Chaque canton à son rythme a fait sa révolution. Partout, il y a eu des assemblées nationales, d'abord à Berne, ensuite dans le pays de Vaud. Mais au mois de mars 98, la France est un pays occupé et pillé sans merci, le trésor public est confisqué, ainsi que le matériel de guerre des cantons. Et en juin 98, le commissaire Jean-Jacques Rapinat, dont rien que le nom a donné lieu à toutes sortes de chansons contre lui, obligea deux des directeurs helvétiques à démissionner pour faire entrer au gouvernement central Ox, le Ballois et la Harpe. Du pays de Vaud, et à ce moment-là, une alliance défensive et offensive, c'est très important, avec la France, a mis fin définitivement à la Suisse et a transformé la Suisse en État satellite. Comme le notait Talleyrand à l'époque, dans un texte extrêmement intéressant sur la situation en Europe et sur l'état de la France, en 1800, la France n'avait plus besoin de cette neutralité. Et pourtant, il la regrette. Et dans le même texte, il recommande à Napoléon, en 1800 déjà, de la rétablir, en disant « C'était sans doute un privilège heureux, respecté par la guerre et le temps, que celui de la neutralité helvétique. Et s'il dépendait encore de vous, il s'adresse à l'empereur, à Bonaparte, et s'il dépendait encore de vous aujourd'hui de le conserver, ce privilège, vous rejetteriez comme un attentat inutile l'idée d'y porter atteinte. Mais aujourd'hui, que les nations belligérantes ont détruit cet heureux prestige et traversé en tous sens cette région réputée inaccessible, les siècles peuvent seuls refaire leur ouvrage qu'un moment a détruit. » Grand homme politique que ce Talleyrand. Et Napoléon a rétabli la neutralité très rapidement. Il a convoqué les Suisses à Paris pour une consulta. Il a dicté l'acte de la médiation et il a fait savoir aux Suisses « Vous êtes en sûreté entre ces puissances, donc l'Autriche et la France, qui sont en équilibre et vous êtes tranquille, même dans les moments d'oscillation, parce que vous tenez le milieu des bras de la balance. » Eh bien, ce milieu des bras de la balance, la Suisse s'y cramponne jusqu'aujourd'hui. Le deuxième point qui est important, et je vais essayer d'aller un peu plus vite, ce traumatisme helvétique, c'est le centralisme et le refus du centralisme, car la constitution helvétique a transformé le pays en un pays organisé de façon pyramidale, découpé en 22 cantons, eux-mêmes découpés par districts qui se composent de communes, qui se composent d'arrondissements. C'est donc une structure pyramidale parfaite. Lors d'assemblées primaires tenues annuellement dans les communes, sont élus en raison de 1% les membres du corps électoral cantonal auquel il incombe de désigner les autorités cantonales et centrales. Chaque canton envoie 4 députés au Sénat, 8 au Grand Conseil, 1 au Tribunal suprême. C'est-à-dire, les habitants des communes n'ont plus qu'un seul droit et un seul, c'est d'élire le corps électoral. C'est tout. Ça s'arrête là. Et l'autonomie communale et cantonale est devenue inexistante. C'est un directoire de 5 membres, renouvelé par l'élection de nouveaux membres chaque année, qui est au pouvoir. Un directoire, si on compare avec la constitution de l'an 3, qui a des pouvoirs beaucoup plus étendus que le directoire, selon la constitution de l'an 3. Car il nomme les ministres, les agents diplomatiques, les officiers, les préfets. Et les préfets ont été expérimentés en Suisse avant même qu'ils ne fussent expérimentés en France. Le préfet représentant le pouvoir central dans chacun des cantons, sa charge, ainsi l'a défini l'article 96, est de surveiller toutes les autorités et les employés dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, un pouvoir quasiment absolu. Or, L'histoire suisse est à beaucoup d'égards l'histoire d'une résistance au centralisme, l'histoire des refus successifs de renoncer au pouvoir local pour le remettre à l'échelon immédiatement supérieur, des communes au canton, des cantons à la Confédération et aujourd'hui de la Suisse à l'Europe. Même dans certaines vallées, on a gardé l'habitude de s'administrer soi-même. Cette fragmentation extrême est sans doute dictée d'abord par la géographie. Peu de pays sont aussi compartimentés. Et depuis le retrait de la Suisse de la scène européenne, les moments où la nécessité d'une coopération entre les cantons se sont fait sentir étaient devenus rares. Mais à la fragmentation extrême de la géographie s'ajoutent d'autres fragmentations. D'abord, la fragmentation religieuse. Depuis la réforme, deux confessions coexistent, puis trois langues. Ainsi, la défense des particularismes peut s'exercer à tous les niveaux et dans tous les domaines. Elle est presque une forme de respect mutuel. Et on peut l'illustrer par un exemple qui, encore une fois, a trait à la République helvétique, la langue. La frontière linguistique du nord au sud n'a quasiment pas bougé depuis l'an 1000. Vous la voyez passer 30 kilomètres à l'ouest de Bâle. Elle va en direction de Bienne-Fribourg. Elle coupe le Valais en deux. Et entre, dans le pays d'en haut, comme on dit, entre les deux villages de Rougemont d'un côté et de Zahnen près de Gstaad de l'autre, il y a 5 kilomètres. Or, la frontière est toujours entre les deux villages, à peu près depuis l'an 1000. La langue officielle des 13 cantons, c'est-à-dire de la Suisse du début du 16e à la fin du 18e, est l'allemand. Plus exactement, des variétés d'alémaniques, car les différences entre les dialectes suisses de la partie orientale et de la partie occidentale sont pour le moins aussi grandes qu'entre le Picard et le Savoyard. Mais il n'existe aucune instance pour essayer d'unifier ces langues. Il y a des cantons bilingues, Berne et Fribourg. La correspondance des cantons avec les pays alliés, Neuchâtel et Genève, se fait évidemment en français. L'évêché de Bâle et le Valais, autres pays alliés, sont également bilingues. Mais la majorité des sujets des princes-évêques de Bâle, chassés par la réforme et résidant à Porrentruy, parlent le français. Ceux-ci, les évêques, s'adressent donc à leurs sujets en français, mais correspondent avec les cantons en allemand. Toutefois, lorsque l'évêque Sigismund de Rockenbach prend congé de son peuple au moment de la Révolution, qui le voit d'ailleurs partir sans trop de regrets, en guise de protestation, il s'adresse à eux en allemand. Les Grisons sont trilingues. Il y a des Valais germanophones, des Valais italophones, des Valais rétoromanches. Il n'y a jamais eu aucune tentative de les unifier. Tous les documents depuis le Moyen-Âge sont émis dans les trois langues, y compris, bien entendu, le catéchisme. Bien plus, le rétoromanche existe lui-même en trois, selon certains linguistes, en cinq variétés distinctes. Il n'y a aucune tentative de faire un ladin qui unit tout le monde. Donc, la langue est un sujet de fragmentation, et ce n'est qu'au moment de la République helvétique où on a voulu rapidement unifier la Suisse, parce que la Harpe déclare par exemple « Maintenant que les membres des deux conseils ayant reçu une éducation libérale pouvaient s'entendre en français, l'idiome de la révolution actuelle contribuera puissamment à se répandre dans la Suisse entière. » Et donc, il y a eu une sorte de terrorisme de la langue à un tout petit moment au moment de la République helvétique. Je passe sur les autres tentatives d'unification et je dis un mot pour conclure des libertés communales, le troisième marqueur de l'identité helvétique. Les libertés helvétiques se déclinent au pluriel et jamais au singulier. Et le premier marqueur, c'est que les juges doivent être élus dans les communes, voire dans les cantons. Et rien n'est plus symptomatique à ce propos que cette résolution des paysans de l'Obersimmental en 1801, en pleine République helvétique. Nous étions des sujets, nous ne faisions pas partie du gouvernement, mais nous paraissions devant nos seigneurs l'épée au côté. Nous sommes un peuple heureux de bergers, jouissant de nos libertés. Plus la nouvelle constitution ressemblera à nos anciennes libertés, mieux on nous portera, mieux on se portera. Et preuve suprême de cette indépendance cantonale, c'est que les cantons sujets ont eux-mêmes administré ce qu'on appelait l'argent de guerre, c'est-à-dire les pensions versées pour les régiments suisses. Vous me direz qu'en France aussi, vivre au pays, cela existait et qu'on ne peut évidemment montrer que ça a encore été fait récemment, que la parcellisation existe également. Donc, comme ces trois marqueurs, et je termine par là, à la fois la neutralité, le centralisme ou le refus du centralisme et l'autonomie communale ont été mis à mal au même moment et de façon brutale, ça a créé une sorte de choc, si bien que les cantons se sont réappropriés pour ne plus jamais les quitter, certaines compétences, notamment en matière d'éducation, de culture, de fiscalité, par exemple. Je vous remercie et je vous demande pardon d'avoir été un peu long.